France Culture.
Réplique, le phénomène Sally Rooney avec Mathilde Brézet et Thomas Stélandre. De la romancière irlandaise Sally Rooney, née en 1991, qu'elle était la Jane Austen 2.0 ou la G.D. Salinger de la génération Snapchat. Après Conversation entre amis, Normal People et Où es-tu, monde admirable, paru aux éditions de l'Olivier, elle publie chez Gallimard, en même temps que dans le monde entier ou presque, Intermezzo, un long roman accueilli, comme les précédents, par une presse enthousiaste. Je suis pour ma part séduit, mais aussi dubitatif. Afin de me convaincre que j'ai tort, et que Sally Rooney est bien, comme l'a dit le Guardian, le phénomène littéraire de la décennie, j'ai invité Mathilde Brézet, auteur d'un premier livre magistral, Le Monde de Proust, et Thomas Stélandre, qui est critique littéraire au journal Libération. Diriez-vous l'un et l'autre que Sally Rooney est notre Jane Austen, et si oui, en quoi, Mathilde Brézet?
Cette expression est beaucoup revenue dans la bouche des critiques au moment de la parution des différents romans de Sally Rooney. On comprend pourquoi, parce qu'elle est assez efficace, je pense. Elle a des trous, mais elle recouvre plusieurs réalités de ses romans. Elle rencontre par exemple de la thématique de ses livres, qui sont en général des histoires sentimentales, pas exclusivement amoureuses. Il est aussi beaucoup question d'amitié, de fratrie, mais c'est un point commun entre ces deux écrivaines. Il y a aussi, je pense, l'expérience de lecture. Quand on aime Jane Austen, on est très absorbé dans un de ses romans. La lecture nous emporte et c'est vraiment la marque aussi des romans de Sally Rooney. Ce sont des lectures qui nous emportent, ce sont des page-turners. Et la troisième chose qu'elles ont en commun toutes les deux, c'est la puissante investigation morale qu'on trouve dans ces deux livres. Parce que Jane Austen parle d'histoire d'amour, mais raconte aussi l'histoire de personnages qui cherchent à vivre, de femmes d'ailleurs souvent, qui cherchent à bien vivre. Comment vivre bien? Quel modèle explicatif du monde fonctionne et me permet de traverser la vie? Et c'est un questionnement permanent, je crois, chez les personnages de Sally Rooney.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Ça, j'ai relu un chapitre consacré à Jane Austen de L'amour et l'amitié, le livre d'Alan Bloom. Et il dit ceci, harmoniser la passion sexuelle et l'amour de la vertu, telle est pour Jane Austen, comme pour Rousseau, la question centrale. Alors, on ne parle plus de vertu aujourd'hui, mais c'est un peu ce que vous disiez. Et il ajoute une autre phrase, les héros d'Austen n'ont guère l'expérience de coups de foudre, ils doivent ausculter leurs sentiments. Il y a peut-être des coups de foudre, mais on ausculte beaucoup les sentiments chez Jane Austen. Et puis aussi, cette autre phrase, quel est l'effet de l'attirance sexuelle sur la conversation, de la conversation sur l'attirance sexuelle? Et là, vraiment, on est tout à fait dans l'univers de Sally Rooney. Thomas Stélandre.
Ce qui m'amuse dans cette histoire, donc c'est un truc qui revient tout le temps quand on parle de Sally Rooney, c'est ces formules en fait, ces formules un peu définitives pour essayer en fait de la saisir, qui sont presque des formules publicitaires. D'un coup, Salinger de la génération Snapchat, pour la petite histoire en fait, quand c'est son premier éditeur en fait qui essayait de la définir et de la vendre dans une certaine mesure comme ça, elle savait même pas ce que c'était Snapchat à ce moment-là.
Ah
donc
bon,
effectivement, oui. Il y a Jane Austen aussi, le New York Times au moment où elle a sorti donc son premier roman, voilà, disait d'elle, bah c'est le premier grand écrivain des millennials. Et je lisais aussi là un article tout récent sur Intermezzo dans le Guardian où on disait bah voilà, Sally Rooney, la Taylor Swift du monde littéraire.
Voilà, oui.
Donc en fait, on est toujours dans ce truc où on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir en fait mettre un petit peu, vous savez, la tagline sur l'affiche. Donc bon, tout ça m'amuse, mais après, on peut se dire qu'est-ce que ça a d'intéressant. Si on essaie de décomposer un petit peu, je me dis, quand on dit Jane Austen 2.0, on dit qu'il y a chez elle quelque chose de très classique, C'est-à-dire qu'on est dans des histoires sentimentales, on est dans du boy meets girl, on est dans des luttes de classe, on est dans des choses voilà, qu'on retrouve et qu'on connaît. Mais 2.0, pourquoi ? 2.0 parce qu'il y a cette efficacité. Il y a cette efficacité des chapitres courts, d'une écriture qui est très simple, qui est très fonctionnelle, et qui finalement répond aussi, je pense, à notre attention, qui est évidemment de plus en plus voilà, brève, parce qu'on est comme ça conditionné par les réseaux sociaux, par le fait qu'on est sur Instagram, qu'on scrolle, qu'on passe d'un sujet à l'autre. Et je pense que Sally Rooney, elle a très bien intégré ça dans sa littérature, tout en gardant cette espèce de dimension extrêmement classique, c'est-à-dire c'est l'histoire. Tous ces romans racontent ça. Tous ces romans parlent de rencontres, en fait. C'est toujours un homme, une femme, un homme qui se rencontrent, ou parfois un peu plus largement un groupe, en tout cas, ou une amitié, mais souvent, en tout cas, il y a des rencontres. Mais la manière dont elle raconte ça, c'est avec voilà, des outils qui sont ceux aussi du monde contemporain et des réseaux sociaux.
Alors, les outils du monde contemporain, parlons-en tout de suite, avant d'aborder plus profondément certains romans, notamment Intermezzo et Où es-tu, monde admirable. Les nouvelles technologies sont omniprésentes dans ces romans. Pour moi, c'est très étonnant, parce que j'appartiens à une génération qui a vu se banaliser la télévision. Quand même, la télévision est entrée dans tous les foyers dès les années 60. Et puis le téléphone, parce que c'est, au début, les gens n'avaient pas tous le téléphone. C'est le 22 annière de Fernand Reynaud, si ça vous dit quelque chose. Mais, curieusement, c'était encore des instruments. Comment dire? On n'en faisait pas tout un plat. Oui, d'accord, on avait le téléphone. Et les romans non plus n'en faisaient pas tout un plat. Maintenant, ces nouvelles technologies, c'est-à-dire le portable et l'ordinateur, sont un univers. Et c'est dans cet univers de messages, de coups de fil, etc., que se déploient les romans de Sally Rooney. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça veut dire que Sally Rooney est une romancière milléniale ? Milléniales sont les personnes nées entre 1980 et 1994, c'est-à-dire vous deux.
Exactement.
Donc, une romancière milléniale qui écrit pour les millénials, alors les autres ne sont pas forcément exclus, ils peuvent trouver ça exotique, ou bien comme moi, ils se sentent un peu comme Jacouille, complètement paumés. Alors,
moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup séduite,
Mathilde Brézé.
La première fois que j'ai ouvert un roman de Sally Rooney, c'est de trouver, pour ceux qui n'ont pas lu, donc on trouve régulièrement des retranscriptions entières de conversations par texto, par message. La messagerie instantanée, je crois que c'est la technologie qu'elle intègre dans ses romans et qui est peinte sous tous ses angles, puisque elle raconte toujours l'histoire de relations. On dit tout à l'heure amoureuse, amicale, fraternelle. Ce sont jamais des personnages qui sont au premier plan pour eux-mêmes de ses livres. Je crois qu'elle a dit quelque part, il n'y a pas de personnage intéressant en eux-mêmes. Ce qui l'intéresse, c'est la relation, la dynamique de la relation. Et donc, à cet égard, ce que font les messageries instantanées dans nos vies, cette espèce de présence absente, la possibilité de communiquer, de voir l'autre même commencer un message puis se raviser, c'est quelque chose qui est perceptible sur un écran de téléphone portable, elle le saisit et elle en tire des péripéties extraordinaires. Ces relations reposent souvent sur des malentendus, sur des non-dits et sur la difficulté d'expression des sentiments. Et la messagerie instantanée, avec cette possibilité, mais illusoire qu'elle nous donne d'être à côté de quelqu'un, tout en étant privé du contexte de sa présence, va lui permettre de poser des choses très fortes entre ses personnages. C'est un grand classique dans ses romans, je pense par exemple à « Où es-tu mon admirable ?» Dans une des relations amoureuses entre Simon et Aileen, ils s'écrivent à minuit « Tu fais quoi ?» Réponse « Rien, je suis chez moi. Puis-je venir ?» L'autre lui dit « Bien sûr, tu ne me déranges pas. » Ils se retrouvent, ils passent la nuit ensemble. Mais on va se rendre compte plus tard qu'en fait, ils ont été privés du contexte de ces retrouvailles. Et il se trouve qu'un des deux personnages, Simon, est engagé dans une autre relation amoureuse. Mais dans le feu de la messagerie instantanée, dans le feu des textos, es-tu disponible à cet instant T ? Oui, bien sûr, je le suis. Ils se sont retrouvés et donc ça va déclencher un malentendu qui aura des conséquences. Voilà une des manières dont elle exploite ces réseaux.
Thomas Tennant.
Pour moi, le roman où s'exprime de manière peut-être la manière la plus éclatante cette dimension-là, c'est-à-dire les conséquences en fait des technologies numériques sur les relations entre les gens, c'est sans doute le premier, et on le voit jusque voilà dans son titre, c'est Conversations entre amis. Ce roman donc, il a été publié quand elle avait 26 ans, donc évidemment très jeune. Il a été publié en 2017 en VO, en 2019 en VF, donc dans la traduction de Laetitia Devaux. Et c'est un livre qui raconte en fait la relation entre quatre personnages. C'est Frances, voilà, qui est une jeune poétesse à Dublin, qui avec son ami Bobby, voilà, déclame de la poésie. Et puis un jour, elle rencontre dans une soirée comme ça de poésie une femme, une photographe plus âgée qu'elle, qui est mariée avec un acteur qui s'appelle Nick, qui lui a une trentaine d'années, donc Frances a 20 ans. Et donc s'engage comme ça une relation avec ces quatre personnages et notamment une relation, on peut dire, sexuelle, sentimentale, tout ça. Et voilà, il y a cette valse hésitation qui court un peu dans tous les romans de Sally Rooney entre Frances et Nick, donc entre cette jeune poétesse et cet acteur. Et cette relation, elle passe beaucoup par des échanges, donc, de textos, de mails, messagerie instantanée, etc., etc. Moi, peut-être, je voudrais partager mon expérience de lecture. Donc, on savait depuis assez longtemps, donc 2 ans avant, que Sally Rooney, c'était un peu, voilà, the next big thing. C'est-à-dire, il fallait lire Sally Rooney. Et donc, je l'ai lu, et je me suis dit, bon, bah, c'est intéressant, mais finalement, est-ce qu'il m'en reste grand-chose? Voilà. Et puis, bizarrement, le livre, j'ai continué à y penser. J'ai continué. Il a continué à infuser, comme ça, assez profondément. Et je pense qu'en fait, ça raconte ça. C'est-à-dire que on est dans un monde où on est comme ça cerné par cette multitude en fait de dialogues. Je pense, voilà, il y a les mails, mais il y a aussi les groupes WhatsApp, par exemple, tout ça, tout ça. Et finalement, c'est qu'est-ce qui surnage? Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à ce moment-là dans ma propre relation avec Sally Rooney. C'était au début, je me disais, bah, c'est un roman qui est un peu palo, il se passe pas grand-chose et tout ça. Et puis finalement, ça reste. Qu'est-ce qui reste? Et donc, je pense qu'il y a cette espèce de double relation, de tension chez elle entre qu'est-ce qui reste finalement quand on est dans ce monde où il y a tant de mots qui passent, tant d'informations, tant d'échanges entre les gens, tant de conversations entre amis. Il y a une dimension effectivement un petit peu ironique aussi dans ce truc de se dire, bah voilà, les conversations entre amis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a de puissant? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on garde?
Une de ces grandes marques de fabrique, c'est de cacher cette intensité sous le banal. Ouais. Qui est le grand reproche qu'on fait parfois au style de Sally Rooney, à mon avis à tort pour beaucoup de raisons, mais effectivement elle a cette manière de dissimuler une épaisseur insensée de relations, des dynamiques étonnantes qu'on ne cesse de découvrir. Quand on lit un livre de Sally Rooney, on se demande toujours de quoi s'agit-il, qu'est-ce qui se passe entre eux, me suis-je trompée, se sont-ils trompés? Et cette tension de lecture qu'on a en traversant le livre, elle est entretenue et excitée par cette apparence de banalité.
Et tout à fait, c'est la banalité et la Normal People, donc sans doute son roman le plus connu, son best-seller. C'est ça, la normalité de l'écriture aussi. Il y a effectivement chez Sally Rooney une espèce d'écriture qui est presque pratique, fonctionnelle, c'est-à-dire pas d'après. Par exemple, là où elle est extrêmement forte, c'est les dialogues, par exemple. Il y a ce truc de retranscrire, voilà, ces dialogues, cette simplicité-là. Et moi, je me dis que elle est vraiment forte là-dessus parce que c'est du boulot.
Elle atteint un naturel extraordinaire.
Cette simplicité-là, la simplicité de cette écriture qui est sans ornement, ouais.
Une écriture sans ornement, simplicité d'écriture, mais en même temps...
En tout cas pour les 3 premiers, c'est moins le cas pour le dernier.
Intermezzo, oui. En même temps, moi je me demande si avec Sally Rooney, le roman ne bascule pas dans la romance. Parlons d'Intermezzo, vous en parlez beaucoup mieux que moi. Deux frères, Yvan et Peter, Yvan beaucoup plus jeune, prodige des échecs, ne s'entendent pas très bien, leur père est mort, et ils se disputent notamment avec une certaine violence quand Yvan apprend à Peter qu'il a une aventure avec une femme qui a 10 ou 12 ans ou 14 ans de plus que lui. Margaret, qui est une beauté parfaite, etc. Et puis, Peter lui-même est partagé entre Sylvia, une femme qui, après un accident, ne peut plus faire l'amour, et Naomi, une jeune femme qui se prostitue vaguement de temps en temps, etc. Et la fin est extraordinaire. C'est la grande réconciliation entre Ivan et Peter. Peter trouve un modus vivendi avec les deux femmes entre lesquelles son cœur balance, et Ivan et Margaret filent tranquillement le parfait amour. C'est tout est bien qui finit bien. De même, où es-tu, monde admirable? Il y a toutes sortes de tensions, quand même, entre les personnages, les deux amis qui s'écrivent, Alice et Hélène, Alice et Félix, qu'elle a rencontré sur Tinder, et qui est un prolétaire, qui travaille dans un entrepôt, et puis Hélène et Simon, parce qu'il s'aime depuis l'enfance, mais ça marche pas. Et à la fin, ça marche tellement bien que ça se termine par l'accouchement d'Hélène. Et c'est absolument merveilleux. Elle dit qu'elle ne supporte pas l'idée d'avorter, même si on vit dans un monde affreux, malgré le dérèglement climatique. Et elle termine aussi, c'est une des dernières phrases du livre, « Prouver que la chose la plus banale pour les humains n'est pas la violence ou la cupidité, mais l'amour et l'attention. » On est tout content quand même.
On est tout content. On se sent déçu alors d'une
fois. On se dit, c'est très curieux, si parce qu'en plus, les millennials, c'est un peu une génération revenue tout en apparence, à qui on ne la fait pas, qui ne s'en laisse pas à croire. Et là, on est vraiment, à mon avis, plus dans la romance que dans le roman. Mathilde Brézé.
Oui, c'est une question qu'on lui, ou c'est un reproche plutôt qu'on fait souvent à Sally Rooney. La romance, c'est ce sous-genre issu de la littérature anglo-saxonne qui se caractérise par des histoires quasiment exclusivement sentimentales et, comme vous dites, par une fin heureuse, quelque chose qui relèverait de l'idylle. C'est vrai que les romans de Sally Rooney, surtout les deux derniers, parce que c'est peut-être plus discutable pour les deux premiers, se terminent plutôt bien et je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai trouvé que la fin de « Où es-tu, mon admirable ?» avec ce double échange de lettres, c'est un roman épistolaire, « Où es-tu, mon admirable ?» partiellement épistolaire. Ce qui nous permet de dire, par ailleurs, entre parenthèses, à ceux qui font le reproche à Sally Rooney de ne pas se renouveler stylistiquement, que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, il y a des expérimentations dans chacun de ses livres.
Absolument.
Et donc, dans celui-là, elle s'essaye à l'introduction de l'épistolaire, et le roman se termine en apothéose, par la résolution de la plupart des conflits. Et une double lettre, donc c'est la pandémie, c'est le Covid, certes, mais il y en a un qui fait les courses des vieilles personnes du village, et l'autre qui se dit « je suis enceinte et je vais garder cet enfant car je veux croire que le bonheur est possible ». On est un peu chez les Hobbits. J'ai trouvé aussi que cette fin était un peu rose, mais je pense qu'il faut prendre au sérieux la force de cette possibilité du bonheur. Comme vous le dites, elle vient d'une génération, et elle le dit dans tous ses livres, « Pauvres de nous qui sommes nés dans ce monde sans rêve ». Les personnages sont très désenchantés.
Voilà.
Ils ont été tous, et ça, pardon, mais c'est pas le propre de la romance, ils ont tous été assez brutalement secoués par la vie. C'est des âmes toujours brisées, dépressives, qui sortent d'hôpital psychiatrique, qui ont été dans des relations abusives ou qui y sont encore. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre aussi quelque chose qui, pour moi, ne relève pas de l'idylle, mais plutôt de la guérison. Je crois que, pour le coup, dans chacun de ses livres et dans les relations aussi bien sentimentales qu'amicales, ce qu'elle essaye de nous présenter, c'est la guérison de personnes, d'âmes, à l'intérieur d'une relation qui parfois prend des tours et des détours, mais qui va finir par leur permettre de laisser derrière eux un certain nombre de traumatismes.
Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Tenant?
Alors moi, ce que j'en pense, c'est pour réagir à ce mot intéressant, guérison, je dirais que il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la consolation. Je suis pas tout à fait d'accord avec le côté « tout est bien qui finit bien » chez Sally Rooney, parce que pour le coup, pour avoir lu les quatre, je lui dirais, je trouve plutôt que parfois c'est un peu déprimant. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une écrivaine, je trouve, du bord du gouffre. C'est-à-dire que elle écrit avec la conscience que le monde arrive à sa fin, en fait. C'est l'apocalypse, hein, globalement. Elle nous raconte la surconsommation de plastique, elle nous raconte la crise économique, elle nous raconte la crise écologique, elle nous raconte l'infinie laideur des choses, de la société de consommation, de la société du spectacle. Tout ce qu'on voudra, rien ne va, globalement, dans ce monde-là. Mais qu'est-ce qu'il est possible encore dans ce monde-là, et c'est ce que raconte Sally Rooney dans tous ses livres, il est encore possible de rencontrer quelqu'un. Il est encore possible, et alors c'est là où ça peut sembler sentimental, et c'est là où peut-être...
Même nunuche un peu, quand même.
Nunuche, je ne sais pas. Je ne sais pas si rencontrer quelqu'un, c'est nunuche.
Mais non, c'est la fin qui est nunuche.
En tout cas,
la rencontre, je veux bien.
En tout cas, ce qu'il est possible, et c'est ce qui se passe d'ailleurs au début de « Où es-tu, mon admirable ?» Et c'est quand même une question qu'elle pose, c'est une question suspendue. « Où es-tu, mon admirable ?» Elle donne une forme de réponse. Peut-être que ce monde admirable, il est encore possible à travers la rencontre avec l'autre. Et il y a par exemple... Moi, ce passage que j'avais envie de lire et qui, pour moi, synthétise peut-être un petit peu ce qui se passe et ce qu'on essaie de raconter là. Je vais lire un passage. « Peut-être que nous sommes tout simplement nés pour aimer et nous inquiéter pour notre entourage, pour continuer à aimer et à nous inquiéter, même quand il y a plus important à faire. Et si ça implique que l'espèce humaine s'éteigne, n'est-ce pas, d'une certaine façon, une belle raison de s'éteindre? La plus belle des raisons que tu puisses imaginer ? Alors qu'on aurait dû réorganiser la répartition des ressources planétaires et mener une transition collective vers un modèle économique durable, on se préoccupait de sexe et d'amitié. On aimait trop, on s'intéressait trop aux autres. C'est ce qu'il y a de si beau dans l'humanité. Et en fait, c'est pour ça que je nous encourage à survivre. Parce qu'on est complètement idiots au sujet des uns et des autres. Voilà, ce qu'elle dit à ce moment-là, c'est qu'il y a cette possibilité, encore et malgré tout, d'être ensemble, de rencontrer un ami, et de rencontrer peut-être un amoureux, une amoureuse. L'autre rempart aussi, je pense, à la fin des temps, à cette infinie laideur des choses, à ce qui, voilà, il nous reste aussi une raison d'espérer, et ça on le voyait dans Conversation entre amis, peut-être, et dans Normal People aussi, c'est la littérature. C'est la littérature et la poésie. C'est-à-dire qu'on peut encore aller quelque part et lire de la poésie. On peut encore, comme Connell dans Normal People, vouloir être écrivain, vouloir écrire des livres. Et ça, c'est un rempart, effectivement, et c'est aussi, ce sont des choses voilà, qui ne s'achètent pas, dans une certaine mesure. Et là, peut-être que c'est aussi la dimension politique de sa ironie.
Alors, nous allons y venir tout de suite, à cette dimension politique qui, en effet, est importante. Un dernier mot sur la romance, parce que j'ai lu dans le Figaro Madame, figurez-vous, un article intitulé « Les nouveaux codes de la rom-com ».
Alors, quels sont-ils ?
Alors, quels sont-ils ? Ben, justement, l'article cite Bridget Jones. Elle enchantait la comédie il y a 20 ans, et elle revient. Elle revient, toujours incarnée par René Zefgeller. Elle a 52 ans, son mari est mort, et elle a une aventure avec un homme de 30 ans. Et il nous est dit que cette saga plonge dans l'age gap romance. Age gap romance, la romance de l'écart d'âge. Donc c'est devenu un type, c'est devenu un genre presque. Or cette age gap romance, on l'a aussi.
Tout à fait, dans Intermezzo.
Dans Intermezzo. Puisqu'en effet, je l'ai dit, Ivan, prodige des essais, lors d'un tournoi, rencontre Margaret, il est plus jeune, il y a un grand écart d'âge, dont on fait bizarrement tout un plat dans le roman. Mais voilà, donc c'est vraiment quand même, c'est la romance là, à l'état pur.
Il y a des points communs thématiques, effectivement, avec des choses qui ressortent de la romance. Mais à mon avis, c'est le traitement qui fait toute la différence.
Oui, c'est vrai.
Et ce qui est fascinant quand même dans Sally Rooney, dans ses histoires qui ressortent thématiquement de quelque chose qu'on peut appeler l'amour ou les sentiments, c'est la manière dont ils sont traités. Ces romans réunissent aussi toutes les caractéristiques qu'on oppose à la romance. C'est-à-dire que ce sont des romans hyper sérieux, réalistes, très analytique et très réflexif. Les personnages passent leur temps à se constituer, non pas comme des êtres ayant des goûts et une personnalité, mais comme des êtres ayant des opinions. Les romans de Sally Rooney, c'est une espèce de chambre d'écho, à la fois passionnante et au bout d'un moment oppressante, et d'ailleurs ces personnages eux-mêmes sont oppressés, chambre d'écho des opinions et des discours qui sont en circulation dans le monde. On est là, on vit. Il y a le féminisme, il y a le marxisme, les rapports de domination, l'organisation des modes de production, la théorie du genre, l'existence de Dieu. Les personnages prennent part à cette bataille des idées. Et souvent, elle imagine des gens qui vont incarner ou qui vont choisir une position sur le monde, mais qui vont aussi se rendre compte que cette position n'est pas tout à fait tenable ou que c'est compliqué de l'assumer avec sincérité. Comment peut-on être marxiste et écrivain ? Les personnages le disent souvent, moi je ne change pas le monde. C'était le passage que vous avez cité, Thomas, quand elle dit « je devrais m'occuper de réorganiser le monde et en réalité je m'occupe d'amour et d'amitié ». Là, on entend la mauvaise conscience de l'écrivain marxiste. Il y a un autre passage que moi j'adore, qui est dans « Conversation entre amis » à la toute fin. C'est son premier, c'est celui où les personnages principaux, Bobby et Francis, sont peut-être les plus radicaux. Il y a un personnage qui dit « Tu les vois toutes les deux, elles sont poètes, elles font des trucs de lesbiennes de gauche, quoi. » Genre. Donc, dès le début, on est sur une affirmation de radicalité. Le féminisme va être une composante importante de leur identité. Et à la fin, le personnage, Francis, qui souffre d'endométriose, autre marqueur intéressant du féminisme et d'une littérature féminisme, s'évanouit dans une église de douleur, et elle se pose juste avant de s'évanouir cette question, que je trouve absolument magnifique. Ai-je utilisé de manière fallacieuse une fausse itération de la théorie du genre pour m'éviter un engagement moral ?
Elle se regarde
avoir des opinions, elle se demande si elle les suit correctement, et ça c'est absolument bouleversant, et c'est la marque de l'écriture des romans de Sally Rooney.
Peut-être il faut en passer par la vie à ce moment-là de Sally Rooney elle-même pour comprendre certains aspects, je pense, de son œuvre. Donc Sally Rooney, elle est née en 91 à Castlebar, c'est une ville moyenne d'Irlande, à l'ouest. Elle a grandi dans un milieu moyen, un père employé des télécoms, une mère qui s'occupait du centre culturel local. Elle a été au lycée Cato, et puis elle s'est retrouvée au Trinity College à Dublin, institution très prestigieuse, et elle a commencé à faire des débats universitaires. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est que il faut savoir que Sally Rooney a été championne européenne de débats universitaires à, je crois, 22-23 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était capable de débattre sur tout et n'importe quoi, en étant d'un côté ou de l'autre. C'est donc en fait en gros une championne de l'argumentation. Et ça, on le voit à peu près dans tous ses romans. C'est-à-dire que finalement, on se dit le sujet importe peu. L'essentiel, c'est comment est-ce qu'on soutient ses arguments de part et d'autre. Et on le voit bien, pour le coup, dans Où es-tu, monde admirable, où en fait c'est du coup une relation épistolaire entre deux amis. Et c'est une sorte aussi de presque de dialogue socratique où en fait Sally Rooney débat avec elle-même. Elle continue à débattre. Elle est toujours aussi un peu cette fille de 22-23 ans qui aime la joute. Et ça, je trouve que c'est intéressant à dire parce que ça va un peu à l'encontre de l'image qu'on pourrait avoir de Sally Rooney qui serait une écrivaine recluse, seule. Pas du tout, c'est quelqu'un qui donne pas d'interview, etc. Quand on voit Sally Rooney sur scène, c'est une bête de scène. C'est quelqu'un qui sait débattre, défendre ses opinions et qui le fait régulièrement. Elle le fait avec parcimonie, cela dit, parce qu'elle donne très 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 peu d'interviews.
Très peu d'interviews, oui, mais d'accord. Mais c'est vrai, la politique, au moins en arrière-fond, est très présente. D'abord dans l'idée aussi, peut-être que le roman sentimental ne tient peut-être pas la route, étant donné
l'état du monde.
Étant donné l'état du monde. Mais d'un autre côté, il y a des échanges quand même très révélateurs, notamment dans « Où es-tu, monde admirable ?». Alors, je voudrais rappeler que « Où es-tu, monde admirable ?», titre magnifique, c'est un vers de Schiller, qui a d'ailleurs, le poème entier a été mis en musique par Schubert. Donc, dans ce roman, il est question de la beauté. Et il y a un échange. L'une des deux protagonistes dit « Les humains ont perdu le sens de la beauté en 1976, l'année où le plastique est devenu le matériau le plus utilisé du monde. » C'est très juste, très profond, très intéressant. Et puis tout d'un coup, un peu plus loin, l'autre héroïne lui dit « Je pense que tu te trompes sur l'instinct de beauté. Les êtres humains l'ont perdu à la chute du mur de Berlin. Je n'entrerai pas dans un nouveau débat, donc, avec toi sur l'Union soviétique, mais l'histoire est morte avec elle. Je représente le XXe siècle comme une longue question à laquelle, à la fin, on a donné une mauvaise réponse. » Franchement, alors, il y a un autre personnage, Frances. Oui, c'est dans quel roman, Frances?
Frances, c'est dans Conversation entre amis.
Dans Conversation entre amis, oui. Qui se dit elle-même communiste. Mais en plus, les livres que lisent des personnages, c'est La prochaine fois le feu, Critique de la raison postcoloniale, les auteurs français, parce qu'elle connaît bien la France, visiblement, auxquels on aime se référer dans ses romans, c'est Annie Ernaux ou Pierre Bourdieu. Donc, c'est quand même un univers, mais de là à nous dire que le sens de la beauté s'est perdu avec la chute du mur de Berlin, on est un peu surpris, non?
Oui, marxiste est une des étiquettes qu'elle qui en revendique peu, qu'elle revendique assez volontiers. Après, qu'il faut assortir de tout un tas, évidemment, de modérateurs. Elle le dit elle-même, le marxisme n'a aucune conscience écologique et... dans son regard sur le monde et dans sa critique du plastique et de la société de surconsommation, il y a évidemment une prise de position très attentive à l'état du monde et au sens de la nature. Il y a souvent dans ses romans, sur ce point du marxisme, une rivalité dite et non dite, très intéressante, entre ceux qui possèdent et ceux qui manquent. Entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui ne le sont pas. On peut rappeler que dans Normal People, l'histoire d'amour entre Marianne et Connell est aussi l'histoire de deux personnes qui viennent de milieux très différents et très liés. Marianne vient d'une famille très aisée et la mère de Connell fait le ménage chez ses parents.
Oui.
Et tout ça, évidemment, est digéré par le roman sous le prisme de l'analyse des rapports de domination qu'il existe entre deux personnes et deux personnes qui souhaitent se fréquenter. Le capitalisme est très régulièrement remis en question. C'est la vraie folie. Comment faire pour cesser avec le capitalisme ? Il y a même un passage où un personnage dit à un autre « Pourquoi est-ce que tu penses que le christianisme peut être sauvé, mais pas le capitalisme ?» La condamnation ultime dans ces livres va à cette société de consommation. Et donc la politique, effectivement, est partout, mais encore davantage, je dirais, dans les romans qui présentent des étudiants. On sent aussi l'influence du milieu étudiantin, donc dans Conversation entre amis, c'est très très présent. Le personnage de Bobby, qui est très intense, dégaine tout le temps le mot de fasciste à tout bout de champ. Et on sent que cette présence politique, par exemple dans ce cas-là, est liée aussi à la peinture de la vitalité d'un monde qui a ses propres règles.
Un monde étudiant. La politique aussi déborde le roman chez elle. Je disais qu'elle est traduite dans le monde entier ou presque. Elle refuse d'être traduite en hébreu. Vous le savez sans doute.
Non, elle refuse pas d'être traduite en hébreu. Elle a refusé d'être publiée par une maison d'édition. Donc c'était pour son les deux premiers, elle avait été donc Normal People et Conversations entre amis. Et pour Où es-tu, monde admirable, elle a refusé de céder les droits à une maison d'édition israélienne qu'elle estimait trop proche du pouvoir.
Je suis un peu étonné parce que les maisons d'édition israéliennes, pour la plupart, sont très éloignées du pouvoir, mais peut-être est-ce juste. Mais justement, elles participent aussi au mouvement boycott des investissements sanctions qui vise la culture israélienne dans son ensemble et qui est présidé, qui est dirigé par un quatarien qui appelle à la destruction d'Israël, ce que relève Vincent Jory dans un éditorial de Transfuge, alors qu'elle accepte sans problème d'être traduite en Russie, et j'imagine que toutes les éditions russes sont proches du pouvoir, là. Le reste ne serait pas possible. Enfin, en tout cas, la politique est là pour elle, et c'est une politique qui va dans un certain sens. C'est-à-dire, oui, mais bon, pourquoi pas, après tout, Thomas Stélandre.
Oui, et d'ailleurs, c'est encore le cas, hein. Elle a réitéré avec Intermezzo, qui, de la même manière, n'a pas été publié en Israël. Indépendamment de, si vous voulez, ce choix qui la regarde, moi je trouve qu'on peut en dire deux choses. La première, c'est que c'est quelqu'un qui a une conscience politique très forte. C'est-à-dire que elle est politiquement engagée, elle n'en fait pas mystère, et ça raconte ça, et notamment sur ce conflit, elle prend position. La deuxième chose, qui est intéressante, mais du point de vue, j'allais dire, éditorial, c'est, et qui déplace un peu la question, c'est que c'est quelqu'un qui contrôle vraiment très bien ce que ses livres deviennent, où ils sont publiés et par qui. Et en l'occurrence, voilà, les trois premiers livres de Sally Rooney ont été publiés en France aux éditions de l'Olivier. C'était un gros transfert, donc elle est arrivée chez Gallimard, et sa traduction, encore une fois, la traduction de Laetitia Devaux, a été intégralement relue par Sally Rooney elle-même. Donc c'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui sait très bien où elle publie, comment, dans quel contexte, et l'édition peut aussi avoir évidemment une dimension politique. En l'occurrence, elle a effectivement souhaité que son roman, en l'état, ne soit pas publié en Israël dans ce contexte, mais elle a aussi dit, et ça c'est très important, c'était la voix par voix de son agent, donc l'agent Andrew Wiley, qu'elle espérait au contraire que son roman puisse être traduit en hébreu.
Ouais. Oui, alors d'ailleurs, la politique est aussi présente comme une sorte de remords, notamment dans Où es-tu, monde admirable, je lis, le problème du roman occidental contemporain, c'est que son intégrité structurelle repose sur la disparition des réalités vécues par la plupart des êtres humains sur Terre. Comment se soucier de ce qui arrive aux protagonistes si ça se produit dans le contexte de l'exploitation de plus en plus rapide et de plus en plus brutale d'une majorité de l'espèce humaine? Et un peu plus loin, je reconnais que ça paraît vulgaire, décadent, voire intrinsèquement violent, d'investir de l'énergie dans les futilités du sexe et de l'amitié, alors que la civilisation menace de s'effondrer. Donc le sexe, l'amitié, l'écriture du roman elle-même, tout ça dans un contexte très inquiétant.
Tout ce qui est le propre de la littérature.
Mais Brezet,
oui. Moi je trouve ça magnifique parce que c'est une résistance qu'on retrouve de livre en livre, c'est la résistance de la conscience littéraire.
Oui, c'est vrai.
C'est quelqu'un qui dit, il vaut quand même la peine de porter ce discours sur le particulier, même sur le fictif qui est celui de la littérature. vaut la peine malgré tout d'être menée, alors même qu'elle est hantée, comme on l'a dit, par cette conscience aiguë de toutes les choses qui ne vont pas dans le monde. Et c'est très émouvant de voir ces deux tensions qui se jouent en elle, la manière dont elle les exprime et la manière dont elle prend malgré tout, toujours, elle continue de suivre la voie du roman.
Le roman.
Parce que c'est celle qui est à sa disposition.
C'est ce que Benjamin Constant, cité par Monozouf, appelle la part récalcitrante de l'homme. Mais une autre chose qui, elle, me fascine chez Sally Rooney, c'est la question religieuse. Parce que Simon, dans Où es-tu, mon admirable, oui. Est croyant, et l'autre homme du roman, Félix, l'ouvrier, le prolétaire, trouve ça complètement ridicule. Il comprend pas. Mais Hélène, qui n'est pas croyante du tout, eh bien, à un moment donné, voit Simon prier, et elle a cette réflexion que je trouve magnifique. L'autre soir, j'ai demandé à Simon s'il priait, et il m'a répondu oui, pour remercier Dieu. Et elle ajoute, si je croyais en Dieu, je n'aurais pas envie de me prosterner devant lui et de lui demander pardon, je voudrais simplement le remercier chaque jour pour tout. C'est-à-dire, la prière, c'est pas de demander pardon, c'est pas non plus forcément de demander quelque chose, c'est peut-être rendre grâce. Et ça, cette idée me paraît très belle. Et il y a aussi des réflexions qui émaillent ces romans, aussi bien Intermezzo que Où es-tu, mon admirable, sur Dieu et sur Jésus. Les gens tombent malades et Dieu ne fait rien pour les aider. Ça, c'est dans Intermezzo. En effet, Dieu n'est pas le gentil Jésus qui aimait tout le monde et guérissait les malades. Au contraire, Dieu rend les gens malades et les condamne à mort pour des raisons incompréhensibles. Jésus est celui qui guérit, qui écoute, qui enseigne, l'ami des pécheurs, qui semble presque murmurer à l'oreille de Margaret « Désolé pour mon père, Jésus est facile à aimer, Dieu bien plus difficile. » Alors, que pensez-vous de ces réflexions métaphysiques qui émaillent les livres de Sally Rooney?
Elle est extraordinaire, cette phrase « Jésus est facile à aimer, Dieu beaucoup moins ». Ce qui est fascinant dans les romans de Sally Rooney, c'est, je crois, qu'il est impossible de citer aucun roman contemporain qui a à la fois un tel succès littéraire et commercial, qui soit à ce point aux prises avec le catholicisme, est positivement aux prises, j'allais dire, notamment avec la figure de Jésus. De la même manière que vous avez énormément de scènes de sexe dans les livres de Sally Rooney, vous avez énormément de pages qui sont des réflexions sur la spiritualité, le catholicisme, très peu sur l'Église spécifiquement, mais la figure de Jésus est beaucoup, beaucoup digérée par ces personnages. Donc il y a plusieurs avatars de cette présence religieuse. Vous avez parfois une perspective purement théologique, des personnages qui vont, sans être eux-mêmes chrétiens ou catholiques, revendiquer un certain théisme. À tort ou à raison, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sous-jacent à tout. Ça, c'est ce que dit Alice dans Où es-tu, mon admirable. Dans Intermezzo, Yvan, de la même manière, est un peu convaincu de la nécessité d'un créateur. Donc ça, c'est un peu la raison qui parle, la raison religieuse, si on veut, ou plutôt la raison s'avançant vers la religion. À d'autres moments, d'un point de vue complètement différent, vous avez des réflexions sur Jésus présenté en tant que personnage de fiction. Et ça, c'est assez savoureux parce que je crois que c'est assez rare de manière générale. Jésus est quelqu'un dont les personnages ont lu l'histoire. Et alors, ils ont éprouvé des sentiments pour ce personnage de ce roman que serait l'Évangile. Et Alice, par exemple, va dire à un moment, de la même manière que je veux que les choses s'arrangent pour Anna et Vronsky dans Anna Karénine, je voudrais que Jésus soit gracié à la place de Barabbas. Et donc on sent déjà cet engagement qui est pour l'instant encore purement littéraire. Et après vous avez un dernier stade, parce qu'elle crée des personnages de livre en livre, c'est quelque chose de constant dans son écriture, d'assez peu remarqué d'ailleurs, pas toujours souligné. Elle crée des personnages qui donc ont différentes positions par rapport à ce fait religieux. Et le dernier stade, effectivement, c'est celui dont vous parliez, Simon, catholique, pratiquant, il va à la messe, alors c'est stupéfiant pour la plupart des gens qui l'entourent. Avec cette précision, et c'est intéressant, quand elle fait des personnages catholiques, elle prend soin de les débarrasser soigneusement de toute la morale catholique telle qu'on la perçoit. C'est-à-dire que tout de suite, elle va dire « Simon est catholique, mais a-t-il des amis homosexuels ?» Oui. est-ce qu'il couche ? Il y a quasiment, il y a une de ses amies qui lui demande presque littéralement comme ça, oui, même avec d'ailleurs plusieurs personnes. Il est même pris dans une relation non exclusive, ce qui paraît totalement contradictoire avec la figure du catholique et du catholique pratiquant tel qu'on la voit. Et il y a même, ça, c'est, je pense que c'est très très pensé de sa part, dans la fin de « Où es-tu, monde admirable ?», on se dit que, vous avez dit tout à l'heure que ça se termine sur Aileen qui est enceinte. La première question de Simon, quand elle lui annonce, c'est Que veux-tu faire de cet enfant ? Pareil, ça paraît en contradiction totale avec la morale catholique. Donc, il y a un travail très personnel, constant, et je trouve, moi, très étonnant dans le paysage de la littérature contemporaine.
Alors, il est catholique, en effet, il est pratiquant, c'est un assistant parlementaire, et il est, comme la plupart des autres personnages, ancré à gauche, parce qu'il dit à Hélène, je crois, que au cours des derniers mois, ils avaient beaucoup travaillé, lui et ses amis, ses collègues, avec une ONG qui s'occupait de réfugiés, pour les aider à demander Félix. Et à Félix, il le dit, on essaie, a répondu Simon. Voilà un peu le portrait. Mais que pensez-vous, Thomas Stenandre, de cette présence, de ce questionnement sur la religion dans les livres de Sally Rooney?
Oui, je pense que c'est en fait c'est une toile de fond. On est en Irlande, et pour revenir peut-être encore une fois à la vie, je le disais tout à l'heure, elle est passée par un lycée catholique, donc avec des bonnes sœurs, avec un uniforme, tout ça quand même a, je pense, travaillé quelque chose. Et quand on voit le personnage de Marianne dans Normal People, c'est quelqu'un qui s'inscrit un peu contre l'autorité, contre ces structures. Et voilà, je pense qu'il y a ça aussi, parce qu'il y a cette dialectique, c'est-à-dire que toujours, effectivement, la religion, mais du coup, qu'est-ce qui se passe à l'opposé ? Et notamment, ce mouvement quand même assez amusant, parce qu'on l'a déjà dit, il est beaucoup question de religion, et peut-être d'ailleurs de plus en plus, parce qu'Intermezzo, ça va aussi crescendo, peut-être, voilà, c'est celui où la religion a la place la plus importante. Il est aussi beaucoup question de sexe.
Voilà, j'allais y venir.
Donc, parce que bon, quand même, il faut le dire, c'est une des particularités de Sally Rooney, c'est quelqu'un, et elle le dit elle-même, que c'est essentiel dans son travail, dans son écriture, c'est quelqu'un qui cherche à écrire le sexe et à l'écrire un peu autrement. Comme on parle, voilà, de male gaze, de female gaze, etc. Il y a cette idée du regard. Comment est-ce qu'on raconte le sexe? Comment est-ce qu'on raconte l'orgasme? Et comment on le fait? Pas dans une démarche qui serait, voilà, une littérature érotique, mais en tout cas qui serait une littérature, je dirais, de l'intime.
Mais c'est très érotique quand même. Il y a une scène, par exemple, dans « Où es-tu, mon admirable ?», d'amour par téléphone.
Absolument.
Qui a pu pousser certains lecteurs à ne lire le livre que d'une main. Qui est vraiment très chaude, très réussie, je trouve. Et c'est très intéressant aussi, parce que là, il me semble que Sally Rooney s'écarte du politiquement correct. Nous vivons une époque où la critique de la domination a remplacé la critique de la répression. Pour les boomers, il y avait cette maxime de William Blake, le désir non suivi d'action engendre la pestilence. C'était la répression qu'on mettait en cause. Là, c'est la domination, mais notamment et surtout dans les rapports intimes. Or, plusieurs personnages féminins aiment obéir, notamment Naomi. Demande à être dominé. C'est Naomi et c'est Peter qui a l'air de dire ben non, je suis pas sûr, ça c'est dans Intermezzo. Donc par exemple, au cœur aussi des pratiques sexuelles, semble-t-il prisées par Sally Rooney, il y a le blowjob, il y a la fellation.
Oui.
Et la fellation, elle a l'air autant appréciée par les femmes que par les hommes, ce qui, aux yeux des néo-féministes, devrait ne pas passer. Donc c'est très singulier, cette place du sexe dans les romans de Sally Rooney.
Ah bah elle est complètement déroutante, encore une fois.
Elle est déroutante,
c'est propre, de toute façon, c'est des alliances, des alliages de choses inattendues, sur tous les plans. Et dans la sexualité, c'est le cas aussi. Elle creuse énormément les rapports de domination, mais la sexualité devient pour elle le lieu où la domination ne tourne pas mal. Elle essaye, moi il me semble que c'est ce qu'elle essaye de peindre dans ces scènes de sexe, où ces femmes réclament être dominées, les hommes ne sont pas toujours à l'aise avec ça, ou alors le sont. Mais il y a aussi autre chose. il y a quelque chose de, qui, pour le coup, est très moderne. C'est l'éthique du consentement dans ces scènes
vrai.
De sexe.
Ça, vous avez raison.
C'est des scènes de sexe qui sont incroyablement agrémentées de paroles. Les gens parlent tout le temps. Puis-je te faire ceci ? Est-ce que tu es d'accord avec cela ?
Oui, c'est vrai.
C'est très, très bavard. Enfin, bavard, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas, ça n'est pas simplement la danse des corps. C'est une chorégraphie précise, un jeu de respiration, de gestes qu'elle décrit, et elle assume, elle affronte vraiment cette montagne, mais aussi beaucoup de paroles, et centrée autour du consentement. Et en ça, c'est très novateur, très réussi. Et je pense, par ailleurs, que ces scènes de sexe qui prennent aussi de plus en plus d'importance, peut-être, dans ces romans. En tout cas, l'exposition d'Intermezzo, les 100 premières pages sont proprement ahurissantes à cet égard. Dans une centaine de pages, il doit y en avoir 4 ou 5, qui durent chacune 3 ou 4 pages. C'est très long, c'est pas du tout... c'est pas esquissé, on n'est pas dans un fantasme dont on trace les contours. C'est pour elle, et c'est devenu dans Intermezzo, il me semble, le lieu de l'exposition du caractère du personnage.
Absolument.
Nous sommes ce que nous sommes. Les personnages se montrent fragiles, brisés, peut-être enfin vrais, parce que la sexualité, c'est le lieu où les gens, pour elles, arrivent à être vrais, vrais entre eux. Les relations, elles ne marchent pas quand on se parle, mais ce moment des corps, c'est un moment de vérité qu'elles travaillent de manière incroyablement littéraire et neuve, en fait.
Et elle, oui, parce que la sexualité, c'est aussi l'endroit, vous le disiez, de la vérité et de la vulnérabilité, et d'un coup, la nudité, c'est-à-dire qu'on se met à nu face à quelqu'un. Peut-être qu'il faut dire aussi que, parce que ça a quand même un lien avec la sexualité, que le phénomène Salieroni et la notoriété de Salieroni, elle est aussi très liée à la série Normal People, qui est une adaptation donc du roman. C'était une série sur la BBC en 2020. Grosso modo, 2020, confinement, tout le monde a regardé Normal People, donc série 12 épisodes, 30 minutes. Et c'est la série dans laquelle on a pu découvrir notamment Paul Mescal et Daisy Edgar Jones, qui étaient voilà, ces deux amoureux, Marianne et Connell. Il y avait beaucoup de scènes de sexe, beaucoup de nudité, et ce travail de l'intimité comme ça. Et sur le phénomène Salieroni, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs, beaucoup de lectrices qui sont aussi entrés dans cette œuvre grâce ou par le truchement de cette série qu'elle a coécrite. Alors de mémoire, elle a écrit les 6 premiers épisodes et après elle a été productrice exécutive sur les 6 derniers. Et elle envisage vraiment cette série, donc ce travail de scénariste qu'elle a fait avec Alice Birch, la dramaturge, voilà, comme un travail à part entière, à la fois le prolongement de Normal People, mais aussi une œuvre autonome qui existe en tant que telle et dans laquelle effectivement bah, les corps, l'intimité, la sexualité a une part essentielle.
Oui, et puis il y a chez elle, notamment dans les scènes intimes, une manière d'étirer le temps. C'est-à-dire, on s'arrête et on prend les choses une à une.
Oui, elle a une écriture behavioriste presque.
Oui, c'est ça.
Décrit à trait.
Et alors, il y a ce moment, cette première rencontre sexuelle entre Margaret ou Yvan, où ils sont tellement émus l'un et l'autre que lui jouit trop tôt. Donc effectivement, ils se parlent beaucoup et Yvan passe son temps à s'excuser. C'est quand même très beau et très émouvant. Mais c'est vrai, c'est une romancière de l'instant, dit Alice Fernet, dans son compte-rendu d'Intermezzo. Il y a un fourmillement de détails dans toutes les scènes qu'elle décrit, quoi.
Oui, c'est pour ça que le reproche qu'on lui fait de ne pas avoir de style est, à mon avis, largement infondé.
Ça, ce n'est pas vrai.
Et à cet égard, il y a un personnage intéressant, il me semble, dans Intermezzo, parce qu'il change un petit peu du Rooney-verse, comme on pourrait dire. C'est le personnage de Naomi, qui est la maîtresse de Peter, et qui, effectivement, est en partie travailleuse du sexe, qui vend un peu ses photos hottes, etc., et qui se balade un peu comme ça en crop top, qui n'est pas vraiment l'esthétique Salieroni, qui est plutôt une esthétique de jeune fille frêle avec des fines bretelles très élégantes, etc. Elle, d'un coup, elle sort, et je me dis, elle sort de ce qu'on peut attendre de Salieroni, et je me dis, ça c'est intéressant parce qu'elle va chercher un autre personnage. On a pu lui reprocher, certains critiques l'ont reproché, que ce personnage était un peu moins fouillé que les autres, mais moi je trouve qu'en fait elle a cette manière d'avoir un zoom parfois sur elle, et elle loupe pas du tout ce personnage dans le sens où elle parle bien de son regard intelligent, et elle lui donne quelques très très bonnes répliques pour remettre justement Peter à sa place.
Très bien, mais merci beaucoup à tous les deux. Vous aurez sans doute donné aux auditeurs qui ne la connaissent pas l'envie de lire Salieroni. Ses romans précédents, Où es-tu mon admirable, Conversation entre amis et Normal People, sont publiés dans la collection Point. Et le dernier, chez Gallimard, dans une traduction de Laetitia Devaux. Et je terminerai en lisant ces commentaires des variations Goldberg, parce qu'il y a un concert avec les variations Goldberg dans Intermezzo. Les premières notes aiguës, presque hésitantes, s'élèvent dans une obscurité muette et figée. Et plus tard, la musique change d'un coup, se fait enjouée et rapide, intelligente, comme une succession de répliques. Voilà. Donc, je vous remercie tous les deux. C'était Merci Réplique, beaucoup. Une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Adrien Gaza. La semaine prochaine, émission rapportée de la question du travail. Mes invités seront Dominique Méda et Denis Oliven. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.
When the rain is blowing in your face, and the whole world is on your case, I could offer a warm embrace to make you feel my love. When evening shatters and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. Oh, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Storms are raging on the rolling sea and on the highway of regret. The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love, to make you feel my love.